Et le mardi, dans la deuxième partie de l'EM, on vous propose le plateau des marottes, les sujets qu'on aime, qu'on veut partager avec vous, des idées de sortie dans le Finistère aussi. Alors aujourd'hui, au micro, il y aura Marine Bruno, qui est spécialiste et militante de l'égalité femmes-hommes, qui a commencé une chronique le mois dernier et qui continue donc aujourd'hui. Il y aura Rémi Toularastel, dont la marotte, c'est la science-fiction. Il y a même un invité à propos d'un joyau du patrimoine du fou. Et si j'ai le temps, mon grain de sel prendra soin de vos oreilles. Alors, je commence avec Marine Bruno qui nous propose son petit racontage de l'égalité. Bonjour Marine.
Bonjour Véronique.
Alors la seconde chronique, en plein joli mois de mars, cette fois on y est. Et quelle histoire, puisque c'est ça que tu as choisi de faire, de nous raconter des histoires, Marine, laquelle ?
Eh ben, le week-end dernier, c'était le 8 mars, ou plutôt la journée internationale des droits des femmes. Aussi, je me suis dit, tiens, et si on racontait une histoire en lien avec le pouvoir, en l'occurrence le pouvoir politique ? Ça tient à deux éléments. Le premier, c'est que les municipales, c'est dans un an. Et quand on regarde les chiffres de la parité en politique, on peut s'inquiéter. Bah oui, parce que dans tous les scrutins où la parité n'est pas obligatoire, c'est-à-dire 50% de femmes, 50% d'hommes, il y a en moyenne 2 femmes pour 10 postes. Un texte sera d'ailleurs étudié bientôt, en avril ou en mai, à l'Assemblée nationale pour rendre les municipales plus égalitaires, notamment dans les villes de moins de 1000 habitants. Alors, c'est vrai, c'est un sujet de... et le mot est vraiment difficile en ces temps troublés, un sujet de démocratie. D'ailleurs, est-ce que tu sais depuis quand les femmes ont le droit de vote et sont donc elles-mêmes éligibles ?
Ah, j'avoue, je ne savais pas. Et que tu m'as dit que c'était 1944, je suis étonnée, j'aurais dit 1946 plutôt.
Même. Ah oui, bah tu vois, en effet, c'est bien 1944. Mes propos étaient les bons au départ. Et c'est là mon second point. Si j'ai envie de parler de politique ce midi, c'est parce que cette année, elle est particulière pour nous en Bretagne. C'est le centenaire de l'élection de Joséphine Pincalette au conseil municipal de Douarnenez.
Alors, c'est vrai que c'est étonnant cette histoire, parce que tu nous as dit que le droit d'être élu datait de 1944. Mais Joséphine Pincalette était élue en 1925, donc comment se fait-il ?
Eh ben alors, tu as bien compté, en effet, il y a 100 ans, c'était bien 1925, et c'est là que réside toute l'affaire que je m'en vais vous narrer pour parler un peu d'autre chose que de Trump, etc. etc.
Ça nous changera.
Voilà. Alors Joséphine Pincalette, au départ, c'est une ouvrière, née à Douarnenez, en Sud-Finistère. Sa vie la mène en région parisienne, et au décès de son mari, elle revient à Douarn en 1923. Le temps de trouver un poste à la conserverie à Mieux, une grève éclate en novembre 1924. C'est la révolte des sardinières, la grève des peines sardines, comprenez, les têtes de sardines. C'est comme ça qu'on appelait les ouvrières dans les usines de conservation de sardines, parce que les métiers étaient très genrés à l'époque, les hommes à la mer, les femmes ouvrières. Bon, au final, pas tant changé que ça d'ailleurs. Cette grève, portée par les femmes, va subir toutes les violences et nourrir l'image de Douarnenez. Joséphine n'est pas la plus charismatique, la plus visible, mais elle est hyper engagée, elle sera donc remarquée. Alors, sans formation préalable, c'est encore le cas aujourd'hui finalement, on lui propose d'intégrer une liste pour les municipales. Et ceci permet à une dizaine de femmes d'être élues en France, dont notre chère Joséphine.
Sauf qu'à l'époque, c'est illégal. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite ?
Exactement. Joséphine, elle est élue en mai. Et dès novembre 1925, son élection est invalidée par le Conseil d'État, structure très féministe. Elle retournera à son quotidien et surtout, elle s'éloignera totalement de la politique, dégoûtée.
Et qu'est-ce qu'on peut tirer au-delà de sa propre expérience comme leçon ?
D'abord que les femmes, elles ont toujours été présentes dans toutes les luttes sociales. Et c'est important de le rappeler parce que quand on regarde les choses, en dehors de la Marianne, d'ailleurs toujours représentée à moitié à poil, et dont on croit à tort qu'elle représente la Révolution française dans le tableau « La liberté guidant le peuple » d'Eugène Delacroix, alors que bon, petit aspect... il s'agit en réalité du soulèvement parisien des Trois Glorieuses, ben en réalité, on voit très peu les femmes. On peut même dire qu'elles sont plutôt invisibilisées par l'histoire. En ce qui concerne la révolte des peines sardines, c'est impossible, il n'y a pas d'excuse, c'est une grève de femmes, d'ailleurs peu soutenue par les hommes au départ. Et puis, il y a une sorte d'anachronisme concernant Joséphine Pincalette que moi, par exemple, féministe, j'entends beaucoup. Beaucoup ont tenté d'ériger Joséphine Pincalette en héroïne féministe. Et c'est là qu'interviennent les travaux très intéressants de la journaliste Anne Gouérou et de Fanny Brugnon, qui est une historienne, chercheuse et maîtresse de conférences à l'heure actuelle à l'université Rennes 2. Parce que de féminisme, Joséphine Pincalette ne s'en est jamais réclamée. Ça n'était pas son sujet. En ça, la grève des peines sardines, c'est une grève de femmes, mais pas une grève de féministes. Faut-il se revendiquer pour autant d'être féministe pour pratiquer un engagement féministe ? La grève des peines sardines et le parcours engagé de Joséphine Pincalette nous répondent à cette question, non. Ce qui est féministe, c'est la lutte pour les droits des femmes et pour l'égalité, bref, pour la justice sociale. Or, c'est exactement ce qu'ont pratiqué les peines sardines, en revendiquant un salaire plus juste et en se faisant entendre dans leur réalité de femmes. Si ces sujets vous intéressent, donc, quelques idées de sortie et conseils lecture. Là, on est en plein milieu du festival Sous les paupières des femmes, qui se passe dans toute la communauté d'agglos de Quimperlé. Au sujet de la place des femmes en politique, toujours en se projetant vers 2026 et même 2027, parce que ça va venir vite, j'y donnerai moi-même une conférence ce jeudi. Toutes les infos sur le festival, qui a une grande programmation, et tous les événements sont à retrouver sur le site quimperlé.bzh. C'est bien le festival Sous les paupières des femmes. Et puis pour ce qui est de l'histoire spécifique de Joséphine Pincalette, des Pensardines et de leur lutte, il y a quelques livres. D'abord, le livre de Fanny Bunion, qui s'appelle « L'élection interdite, itinéraire de Joséphine Pincalette, ouvrière bretonne ». Aussi, Anne Grignon, Une belle grève de femmes, Les Pensardines, Douarnenez 1924. Et bien sûr, le documentaire de la journaliste dont je parlais juste avant, Anne Guérou, qui s'appelle Joséphine Pincalette, Une pionnière, qu'on peut retrouver sur le site bed.bzh. Je terminerai en vous racontant, parce que l'actualité du monde nous percute forcément toutes et tous, ce que m'a dit ma grand-mère un jour, je devais avoir 8 ou 9 ans. Elle a dit « Quand je suis née en 1929, j'étais une citoyenne de troisième zone parce que j'avais ni le droit de voter, ni celui de contrôler mon corps. Quand ta mère est née en 1955, elle était une citoyenne de seconde zone parce qu'elle pouvait voter, mais pas contrôler son corps. Toi, t'es une citoyenne de première catégorie et c'est parce que tout ça est toujours très fragile qu'il faudra que tu ne lâches jamais rien. »
Mais oui, en effet. Merci beaucoup, Marine.
Avec plaisir.
Un autre spécialiste, une autre spécialité dans nos marottes, mais toujours des histoires. La marotte suivante est proposée par Rémi. Alors, vous le savez, c'est lui qui anime. Vous reprendrez bien un peu de science-fiction avec de la fiction dedans, des nouvelles de SF, donc. Mais il est aussi un auditeur, un spectateur, un lecteur. Il va voir pour nous les films de science-fiction qu'il nous raconte.
Avec les équipiers de la 29e dimension, je suis allé voir Mickey 17 du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. L'histoire, nous sommes sur Terre en 2054 et la situation n'est pas fofolle. C'est peut-être pour ça que tant de gens veulent partir vers une exoplanète. Il y a beaucoup de candidats pour peu de postes et Mickey, le personnage principal, est prêt à tout pour partir. Y compris à devenir un remplaçable, c'est-à-dire un homme qui sera réimprimé dès qu'il sera mort et cela va lui arriver un paquet de fois. 16 précisément. Mais bon, vous l'aurez deviné au titre du film. Mais lors d'une de ses missions à risque, il ne meurt pas alors qu'on ne donnait pas cher de sa peau. Il va donc se retrouver face à Mickey 18. Sauf que les multiples, comme on les nomme, sont interdits. Ce qui veut dire que si on découvre qu'ils sont deux, les deux vont mourir. Et ça, les deux, ils ne le veulent pas. Avec chacun leur approche de la chose. On apprend vite, c'est pas un spoil, que bien que cloné, chaque Mickey est différent des autres. Mais pourquoi il a accepté ce contrat? Ah, pour ça, il faudra voir le film pour le découvrir. Ce film est bien sûr une satire du capitalisme et de l'Amérique. Mais la façon dont c'est abordé sous des airs parfois burlesques, c'est quand même très précis. Et on devine très bien les personnes qui sont visées à la limite de la caricature. Le chef de l'expédition est un politicien arrogant et exubérant. Il règne sur l'équipage du vaisseau comme un petit seigneur avec son verbiage hors sol et hypocrite. Ses discours me font penser un peu à l'expédition du Mayflower, qui verra débarquer en 1620 dans les futurs États-Unis des colons anglais. Ce qui est marquant, entre autres, c'est le mépris dont font preuve les membres de l'équipe de clonage pour Mickey. Il a une mission ingrate et on le traite comme un bout de viande. Encore que je connais des bouts de viande qui ont reçu plus de respect. Et en parlant de clonage, le réalisateur nous épargne la litanie des différentes morts de cet anti-héros. Lui-même l'évoque rapidement et on le prend en pitié, à ce qu'on devine des sévices qu'il a pu subir. C'est à se demander comment il n'est pas devenu fou. Un détail qui m'a marqué, c'est la manière dont il doit signer son contrat de remplaçable. Faut vraiment être un pervers pour imaginer ça. Alors, faut-il aller voir Mickey 17 ? Oui, certainement.
Mickey 17, c'est à voir en ce moment par exemple au Galaxy à Landerneau ou bien au Celtic, aux Libertés à Brest ou au Cinéville à Quimper, mais ce sera bientôt à l'Image de Plougastel et à l'Agora à Châteaulin. Une de nos marottes sur Transistor, c'est le patrimoine. Patrimoine local, bien sûr. Là, on est en plein dans le sujet avec notre invité qui vient d'à côté, puisqu'il est à la fois élu au FOU. Il est aussi membre d'une éminente association locale de valorisation du patrimoine, Tenzoriou Broarfau, et il est aussi délégué des petites cités de caractère. Bonjour Jean-René Kemener.
Bonjour.
J'ai tout dit.
Oui, je pense.
Alors, vous êtes ici pour nous présenter une petite sculpture très ancienne, la fuite en Égypte. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Alors, la fuite en Égypte, c'est une petite statue, en effet, puisqu'elle ne mesure que 43 cm. C'est une sculpture en bois polychrome et elle représente la Sainte Famille fuyant en Égypte, c'est-à-dire Marie chevauchant un âne. Elle porte l'enfant Jésus dans ses bras et Joseph les accompagne sur le chemin de l'exil. C'est une statue qui a été réalisée en 1541 pour la chapelle Saint-Joseph, donc bien ancienne. Elle a traversé plusieurs périodes de turbulence, puisqu'en 1796, lorsque la chapelle fut vendue comme bien national, la sculpture a été confiée à une famille de Landerneau.
Cette chapelle, elle a disparu, hein, c'est
la chapelle disparu en 1954. Donc, elle a été restituée à la chapelle par la suite et justement en 1954, lorsque la mairie ne voulait plus faire de travaux pour de réparation, elle a été conservée à l'évêché de Quimper.
Et ah oui, finalement, elle n'était plus tellement au FOU alors.
Elle n'était plus au FOU et grâce à notre historienne locale, Matt d'Anguille des Déserts, qui l'a retrouvée un petit peu par hasard en 1986, elle a tout fait pour faire revenir cette chapelle, qui est aussi membre de Tenzoriou. Et en 1998, quand la maison de pays du Fou a été créée, tout a été sécurisé, des vitrines ont été créées. Le maire de l'époque, Jean Bouris, a appuyé la demande de Mad pour faire revenir cette statue.
C'est quel bois d'ailleurs ? C'est une statue en bois, mais en quel bois ?
Alors ça, je ne sais pas quel bois est-ce que c'est. Donc,
Et alors, polychrome, ça veut dire qu'elle était peinte de couleurs ?
Peinte de couleurs, donc a priori, moi je l'ai juste aperçu. Il y a plusieurs couches de peinture, justement, la peinture est très écaillée. Il y avait déjà, le but de la faire revenir en 1986, c'était déjà de la faire restaurer. Ça n'a jamais eu lieu. C'est toujours le problème des finances, hein, voilà.
Oui, donc, ça ne s'improvise pas de restaurer. On ne va pas juste donner un petit coup de peinture soi-même.
Voilà, donc, parce qu'en plus, le bois est un petit peu abîmé, donc il faut vraiment le restaurer comme cela a été fait pour les statues du porche de l'église. Donc il y a un très gros travail de restauration et de peinture à refaire sur cette statue.
En plus, elle a été classée au monument historique.
Elle est inscrite au monument historique depuis 2023.
Objet d'art,
Comme objet d'art, oui.
La restauration, combien est-ce que ça coûterait, voilà, cette restauration ?
Pour l'instant, on n'a pas chiffré réellement. Il y a juste une fourchette. Ça serait dans les 10 000 euros au bas mot.
Ah oui. Et ça serait assuré par qui ?
Donc, justement, c'est soit la mairie qui est en charge de toute la restauration. Soit il faut trouver un mécénat, il faut trouver quelques...
Oui.
Il faut,
voilà, mais pour... sinon, l'atelier qui réaliserait ça, on ne sait pas déjà qui ça serait.
Pour l'instant, non. On a pensé bien sûr à ceux qui ont déjà travaillé pour restaurer les chapelles, les statues du porche, c'est-à-dire un centre de Bignan dans le Morbihan.
Ah oui, il y en a en Bretagne.
Il y en a en Bretagne, oui. Donc, mais là, il va falloir, si on veut, ce sera la commission d'appel d'offres.
Oui, c'est ça, de toute façon.
Qui va statuer avec, bien sûr, l'aval du conservateur départemental des objets d'art.
Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de cette fuite en Égypte aujourd'hui ? Il y a une actualité.
Alors, pourquoi aujourd'hui ? Parce que on a sauté sur l'occasion lorsqu'on a vu, on a su plutôt que... Alliance.
Donc les assurances.
Les assurances, Alliance, avec la sauvegarde de l'art français, organisait depuis 3 ans un concours au niveau national pour restaurer plusieurs objets d'art. Ils ont fait donc un appel d'offres. Il y a 350 œuvres d'art en péril qui ont été signalées partout en France. Après vérification de leur éligibilité, c'est-à-dire savoir s'ils faisaient bien partie du patrimoine mobilier, est-ce que c'était accessible à tous et de propriété publique ou associative. Ces œuvres ont été présentées le 12 février dernier à un jury composé des représentants d'Alliance, bien sûr, et de la sauvegarde de l'art français, afin d'établir une liste de finalistes qui est soumise maintenant au vote du public.
Mais alors là, il y en a trois, c'est ça ?
C'est par région. Voilà, oui. Région. Il y a trois œuvres par région qui ont été sélectionnées pour leur qualité artistique, pour le niveau d'urgence de la restauration et l'implication aussi des communes ou associations porteuses de ce projet.
Le Fou est très impliqué dans son patrimoine.
Voilà, c'est pas non plus un chèque en blanc pour faire...
Donc là, les gens votent en ce moment, c'est ça. Alors, c'est quoi les trois ? Donc, il y a la fuite en Égypte.
Il y a la fuite en Égypte du Fou. Il y a un panneau publicitaire de Pont-Aven.
Panneau ancien, bien sûr.
pas si ancien que ça, finalement.
Années 50, non, c'est pas ça ?
Oui, 69.
Ouais. Ah oui.
69. Ouais. Et un tableau qui intitulait l'Adoration des mages de Paimpol.
Bon, alors...
Le vote, maintenant, il s'agit d'obtenir le plus de voix possible. L'œuvre qui aura le plus de votes recevra un chèque de 8000 euros, oui. Ce qui est quand même très très important pour la commune du Fou.
Presque la totalité de la
Presque la totalité de cette restauration. Et si elle est restaurée, donc ça permettra aussi de la mettre en valeur, parce que pour l'instant, elle est dans un carton à la mairie.
Oui, elle n'est plus exposée.
Elle n'est plus exposée. Actuellement. Donc.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour voter ? Alors, qu'il faut aller ?
Pour voter, donc, il faut voter déjà avant le 23 mars minuit.
On a un petit peu de temps.
oui et non. Et donc, il faut se rendre soit sur le site Sauvegarde Art Français tout attaché, ou aller sur le site de la mairie où vous trouverez un lien direct pour voter.
Et pour voter, bon, il faut quand même donner un peu ses coordonnées, parce qu'on ne peut pas voter 300 fois, j'imagine.
Alors, ce qu'il y a, on peut voter autant de fois que l'on a d'adresses mail.
Oui, c'est ça. Chaque fois, il faut donner une adresse mail différente.
Voilà, il faut donner une adresse mail différente et aussi une adresse mail valide.
Ah bah oui, bien sûr.
C'est-à-dire que les adresses mail jetables ne sont pas comptabilisées.
D'accord. Et donc, on vote jusqu'au 23 mars.
Jusqu'au 23 mars minuit.
Et on croise les doigts.
Et on croise les doigts pour que cette statue puisse être restaurée et surtout exposée au public. Le gros projet serait de réaliser dans la deuxième sacristie de l'église une salle du trésor sécurisée où tous les objets précieux de l'église, de la commune, seraient exposés, d'en faire un musée.
Ah oui, parce qu'il y aurait d'autres objets,
Il y a d'autres objets dans la commune, il y a une horloge-cage, entre autres, il y a...
Qu'est-ce que c'est une horloge-cage ?
L'horloge-cage, c'était a priori l'horloge qui se trouvait à rue Mingol. Il y aura plus de précisions bientôt dans un bulletin du Arfaumag.
D'accord, on se tiendra informé. Puis je rappelle qu'à propos de rue Mingol, il y a la cloche qui sera aussi restaurée.
Et
il y a une souscription.
C'est un petit peu différent, c'est une souscription. Tandis que pour la fuite en Égypte,
c'est un concours.
Entre guillemets, ça ne coûte rien.
C'est ça.
Il suffit juste de trois clics. Ouais. Et ça rapporte des voix pour le Fou.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Jean-René. Alors, on va terminer avec Mon Grain de Sel. Mon Grain de Sel qui sera très approprié à la radio, puisqu'il est question de vos oreilles. Forcément, le son, donc l'audition, c'est aussi une de nos marottes quand on travaille en radio. Alors, jeudi prochain, c'est la 28e édition de la Journée nationale de l'audition. Là, c'est la ville de Quimper qui participe à cette action pour recevoir et informer le public. Pas forcément les plus âgés. Hein. Au contraire, garder une bonne santé auditive, ça commence dès l'enfance. En outre, la gêne auditive est assez mal diagnostiquée, contrairement aux troubles de la vision, par exemple. Et c'est dommage, parce que les prothèses, elles peuvent être 100% remboursées depuis peu. Et il y a 6 millions de personnes en France qui sont concernées par les troubles auditifs. L'association Sourdine, qui est une association de malentendants et de personnes devenues sourdes dans le Finistère, avec aussi des audioprothésistes, va proposer des tests auditifs, informer le public sur l'importance de bien entendre. C'est important pour sa vie sociale, certes, mais c'est aussi pour sa santé en général, sa santé mentale, puisqu'on sait désormais qu'une mauvaise ouïe accentue fortement les risques de démence précoce. Donc cette année, la sensibilisation va se tourner en particulier vers le gaming. Et oui, l'utilisation intensive de casques audio, la participation à des sessions prolongées qui sont des pratiques à risque pour les oreilles, pour continuer à s'adonner aux jeux vidéo sans devenir sourd. Donc on peut mettre en place des bonnes pratiques qui vous seront expliquées à l'occasion. Donc c'est jeudi de 14h à 17h avec des dépistages auditifs gratuits, des conseils. Alors c'est soit à l'hôtel de ville de Quimper, soit en mairie d'Herguermel, soit en mairie de Carfintin, soit à la maison des services publics à Pénars. Et puis il y aura aussi une conférence sur les acouphènes, comment vivre avec ces acouphènes, sur la recherche, les prises en charge. Et ça, ce sera le 4 avril à 18h30 au Terrain Blanc à Pénars, voilà, à Quimper toujours. Et ça sera animé toujours par l'association Sourdine avec des audioprothésistes. Merci à toutes et tous de votre écoute. Le LEM, les marottes du mardi, c'est terminé. Il y en aura d'autres la semaine prochaine. Et dans LEM de mercredi, c'est Pierre-Yves Boussard qui anime.